Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais rendre grâce ce soir pour cette invitation que la communauté m'a faite à vous parler. Dans cet esprit de communion, de recherche, de quête de l'unité chrétienne que nous vivons dans cette semaine. Vous voyez que nous lisons les mêmes textes, les mêmes prophètes, les mêmes personnes saintes et justes qui nous ont inspirés. Nos traditions, c'est le cas de Jérémie, grand prophète de l'Ancien Testament. Et ils ont inspiré générations et générations et siècles après siècles. Je suis content d'être parmi vous parce que je disais que c'est la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. Et cette unité qui a été inspirée, le désir s'est inspiré par l'Esprit Saint, et le désir de nouveau de se voir dans la même Église et le même esprit du premier millénaire, parce qu'on a été l'Église une. Une dans le sens de l'unité de la même foi, mais variée dans ses expressions culturelles et spatio-temporelles. Unité, ça ne veut pas dire monotonie, ça veut dire richesse et solidité. Je me réjouis ce soir aussi, d'autant plus que le Père Prieur, le Père Supérieur, il avait dit que je suis surtout relié avec Jérusalem, parce que j'ai commencé ce cheminement dans l'Église, à l'extérieur de ma chère Roumanie, à Jérusalem, dans l'esprit œcuménique et dans l'esprit chrétien des premiers temps. J'étais à l'époque un jeune finissant d'études théologiques et qui cherchait, était en quête d'un chemin plus clair, je dis sur ce papier, probablement plus incarné de Dieu dans l'histoire. Je dois dire que j'ai en mémoire un souvenir de ce que peut être une image de la chrétienté en prière et en quête d'unité. À l'occasion de la fête de l'Ascension à Jérusalem, toutes les communautés qui célébraient cette fête en même temps montaient près de Béthanie, où se trouve l'endroit martyrial, la petite construction église-mosquée, qui témoigne pour nous en tant que chrétiens de l'Ascension de notre Seigneur. Ils installaient leurs tentes tout autour de cela et ils célébraient en même temps, bien que séparément, le même événement, regardant et priant le même Dieu. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pendant la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. Et cela fait partie de la mouvance œcuménique initiée par la poussée de l'Esprit-Saint et le désir d'une réglobalisation historique de la foi œcuménique et transhistorique. On se pose des interrogations pertinentes. Pourquoi cela? Comment? De quelle manière les communautés chrétiennes, la communauté des fraternités, la communauté monastique, peuvent porter le fruit ou la contribution à la société d'aujourd'hui? Il y a 2 ans, il y avait une conférence intéressante, un symposium à Montréal consacré aux défis de l'œcuménisme dans le monde contemporain d'aujourd'hui. Dans la conférence que je présentais, j'essayais d'identifier des éléments pour une feuille de route œcuménique, que je soulignais le nécessaire d'un dialogue en clé polyphonique, parce que le monde aujourd'hui est tellement diversifié et varié dans ses propos que nous ne pouvons pas faire autrement qu'aborder tout dans cette perspective. Le défi du monde contemporain, un questionnement. Quelle est sa place de ce dialogue entre les chrétiens ou le dialogue œcuménique dans une société contemporaine qui propose des valeurs et paradigmes souvent autre que celle traditionnellement connue. Une société où nous rencontrons en même temps du libéralisme économique, le consumérisme et le spectacle, le pluralisme, la globalisation et bien sûr la nouvelle technologie et le média. Voilà quelques valeurs qui ne sont pas toujours toutes négatives. Père Stanislaus, qui est un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle, et de mon pays, il commentait beaucoup, ces passions que, à la première vue, il semble être négatives. Mais il parlait du libéralisme en tant que réminiscence de cette liberté de l'homme à chercher Dieu. Du consumérisme, comment le transfigurer dans ce désir profond et éternel de Dieu? Et le spectacle en signifiant la dynamique créative au créateur, créatrice de l'homme envers Dieu. Vous voyez donc, ce n'est pas... Dans la tradition byzantine, on a un terme très cher à nous, c'est la transfiguration. On ne détruit pas l'homme. On ne détruit pas ses potentialités, ses énergies. On les transfigure. On est âme et corps. Pour répondre à la question, quel est le rôle de la mouvance écuménique, du dialogue ou de l'Église dans le monde d'aujourd'hui, je manifestais dans cette symposium ma profonde, conviction que la démarche écuménique présente de relevance, est relevante aujourd'hui, et la réponse est oui, parce que la conviction profonde est que la crise économique et sociale, ce n'est pas ou c'est que la pointe visible d'une plus profonde crise morale et des valeurs. Et qui d'autre, je me questionnais à l'époque, sinon les traditions chrétiennes auraient quelque chose à dire en ce sens, elles qui pendant des siècles ont contribué à l'édification de ces mêmes sociétés, avec ses travers, bien sûr. Restreindre, limiter, si vous voulez, la réponse, restreindre les options à une réponse à cette question, on aborde ici les églises, les communautés, surtout monastiques ou les fraternités. Certainement, nous pourrions aborder la pléthore des innombrables exemples de la nature spirituelle ou ecclésiale. Toutefois, nous allons nous limiter à l'expérience, à l'exemple monastique, parce que nous sommes dans ce contexte plutôt monastique ici. Le mot écuménique et sa signification écuménique vient du grec d'oikos, ceux qui savent probablement, qui signifie maison, nation ou nations. Cela veut dire que nous tous, chrétiens, nous sommes une seule et même maison. Nous œuvrons et nous prions dans la même seule maison, comme un seul peuple, comme une seule nation des baptisés. Nous sommes appelés à prendre soin de notre maison, chacun à sa façon la meilleure. L'expérience monastique, unité intérieure basée sur un élément rassembleur, Dieu. L'expérience monastique est tout d'abord une expérience d'unité intérieure. Rassembler son esprit, ses énergies de l'âme et du corps et constituer une unité harmonique ayant comme source Dieu et sa parole. Moine ou manial, je reviens de nouveau au mot grec original, à la racine monos qui signifie un, unitaire, un seul. Cela signifie que nous sommes d'abord appelés à devenir un, unitaire. Rassembler toutes nos énergies et forces. Et d'ici découlera l'unité exprimée visiblement. L'Écriture et la tradition nous enseignent que chaque être qui vient dans ce monde est image et ressemblance de Dieu. Ça, c'est le livre de la Genèse. C'est pour cela qu'il est égal à tous toutes les autres personnes devant Dieu, indifféremment de son état dans la société. Que ce soit riche ou pauvre, noir ou blanc, homme ou femme, jeune ou plus âgé. À chacun de nous lui est donné le don de l'image de Dieu. Et on est appelé à atteindre sa ressemblance. Chacun comme personne à part ou chaque communauté vit, comprend et témoigne de Dieu d'une façon particulière, incarnée. Il s'imagine ou s'invente, on dirait, et rassemble à la pensée de Dieu que l'Esprit Saint a mis en lui par inspiration. Le patriarche de l'Église orthodoxe, le patriarche Daniel, qui avait vécu pendant plusieurs années en Occident, il s'exprime d'une façon intéressante par rapport à cette relation œcuménique fraternelle entre les Églises. Et je cite, « Le secret du succès du mouvement œcuménique demeure dans la redécouverte de la centralité du Christ, dans la vie et l'activité des chrétiens du monde entier. C'est un mouvement de conversion, c'est-à-dire d'écoute et par la suite de l'annonce. Conversion, c'est changer de direction, changer le contenu de sa pensée. Et le prophète Jérémie nous appelle, nation, écoutez la parole de Dieu. Annoncez-la. Les moines et les moniales, le chrétien véritable, c'est un métanoïa incarné. C'est quelqu'un qui a changé sa raison d'être. Métanoïa, c'est de nouveau le grec au-delà de la nous, de notre raison mondaine. C'est une unité, une conversion envers Dieu. Unité fraternelle autour du Seigneur, c'est ça ce que nous témoignent les communautés religieuses. Afin de pouvoir faire avancer cette cause fraternelle, cette cause œcuménique, et de dépasser les divisions historiques, il faut d'abord découvrir le Christ lui-même, l'objet et la raison de notre foi commune. Comme un facteur rassembleur pour toutes les traditions chrétiennes. Cette redécouverte nous permettra à tous de conserver une relation étroite et directe, synchronique avec le Seigneur dans notre temps d'aujourd'hui et avec nos frères aussi. Cela pourra se faire en comprenant et promouvant le mouvement œcuménique comme un vaste, je cite, mouvement de métanoïa et renouvellement, c'est-à-dire de changement de notre raison profonde, conviction profonde et renouvellement, parce que le renouvellement vient de ce changement. Comme un mouvement de conversion à la plénitude de la foi, du confessionnalisme autosuffisant au réel service, de la compétition à la coopération, de la haine et suspicion à l'amour et à la confiance. Cela permettra une œuvre envers le Seigneur lui-même, envers le Seigneur lui-même, envers l'autre et envers soi-même accompagnée d'une écoute véritable et authentique. On est tous autour du Seigneur, comme ce soir. D'ailleurs, continue le patriarche Daniel, l'esprit du début du mouvement œcuménique est un mouvement de repentance et abaissement de tous les chrétiens et les églises menant en convergence et en accord de cœur et d'esprit. C'est intéressant, cette idée qui m'a touché il y a 2 ou 3 ans. Le mouvement œcuménique, le rapprochement entre les peuples, en tout cas chrétiens au moins, c'est une mouvance de l'esprit qui est conversion, qui est métanoïa, qui est repentance et abaissement. On essaie de briser un peu les murs de l'histoire, de l'inertie de l'histoire, avec nos forces faibles, qui correspond parfaitement au premier mot du Seigneur au début de sa mission publique, donc Je parlais toujours des mouvements de repentance. Le Seigneur commence son activité publique, si vous voulez. Repentez-vous, métanoïté, changez votre raison d'être. Car le royaume des cieux est tout proche. Notre raison d'être, c'est le royaume de Dieu. Ici, bien sûr, en partant d'ici, vers le monde éternel. Mais on est des hommes et des femmes incarnés. On vit dans l'histoire. Les prémices d'un dialogue libéré des limitations historiques contraignantes du langage et de la pensée théologique seraient ainsi créées une fois que nous vivons avec le Seigneur. Cette perspective aura plusieurs avantages à mon sens et assurera cohérence et consistance au dialogue écuménique. Et le Seigneur va rester le seul critère, vision et surtout le modérateur de nous tous par sa présence. Elle pourra aider à comprendre la démarche écuménique comme un humble service rendu au Seigneur crucifié et ressuscité. On ne rend pas service à nous-mêmes, bien sûr qu'on rend aussi. Mais surtout, ce dialogue, ce service, on le rend au Seigneur ressuscité. Et bien sûr, de cette manière, je le disais tout à l'heure, on pourrait ainsi arriver à briser ces murs de l'inertie de l'histoire qui souvent nous font mal. Et les communautés et les fraternités surtout qui prient et qui témoignent de cette centralité de la foi et de la présence du Christ, de notre Seigneur, sont des exemples pour nous aujourd'hui dans un monde, comme je l'ai dit au début, qui des fois nous pousse à voir des valeurs qui ne sont pas forcément comme les nôtres. Prions tous ensemble que le Seigneur nous inspire à tous, chrétiens de tous bords, orthodoxes, catholiques ou d'autres, qu'on se réunit, qu'on pense et prie ensemble et qu'on prend de l'initiative à la poussée de l'Esprit-Saint envers. Cette année, comme le pape François l'a ouvert déjà, c'était 2015, à la fin de l'année de la miséricorde, une personne qu'on apprécie beaucoup dans l'Église orthodoxe. On aime bien toujours ses interventions. Je l'écoute à travers le radio catholique d'ici. Et qui est une voix avec beaucoup d'autorité pour la société d'aujourd'hui. Encore une fois, ce soir, je vous remercie beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amen.